Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Il y a un article à lire, c'est sur Ricochet Média, c'est écrit par André Noël, il est avec nous. André, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, alors c'est sur les purificateurs d'air. On s'est parlé quand vous aviez écrit sur la performance du docteur Arruda, ses dernières décisions. Et là, vous remettez ça dans Ricochet Média, et là vous abordez la question des purificateurs d'air. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, flanqué du docteur Richard Massé, qui dit finalement que on n'a pas de problème dans les écoles en ce qui a trait à la qualité de l'air.
Bien, effectivement, c'est complètement faux. C'est un problème majeur. Aussi, il y a une étude qui est passée un peu inaperçue. Le Journal de Montréal en a parlé, mais d'autres médias non, c'est celle de la démographe Simona Bignani, qui indique qu'à Montréal, la transmission, les écoles sont une source de transmission communautaire. Autrement dit, ça va beaucoup plus dans le sens des jeunes, des enfants vers la communauté que l'inverse, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et une des raisons, c'est que les enfants, les jeunes adolescents se retrouvent pendant plusieurs heures dans des milieux fermés et mal aérés, c'est-à-dire dans des conditions totalement propices à la transmission du coronavirus.
Ouais, vous citez l'Agence de santé publique du Canada qui contredit le gouvernement québécois. Comment expliquez-vous cette différence dans la santé publique, que ce soit, et là vous donnez une série d'exemples aussi dans l'article André Noël sur ce qui se passe ailleurs, ce qui se décide ailleurs et ce qui s'est décidé au Québec. Puis là tu te demandes est-ce qu'on vit sur la même planète?
Comme vous savez, je suis assez critique des autorités de la santé publique au Québec. Je ne peux pas faire autrement que de conclure qu'elles ne suivent pas suffisamment l'évolution des connaissances scientifiques. Et dans ce cas-ci, c'est pas une question d'être fédéraliste ou souverainiste, mais il faut admettre qu'au niveau fédéral, ils sont beaucoup plus sur la coche. Alors, concernant les purificateurs, c'est pas la panacée, c'est pas absolument, c'est pas la solution à tout. Hein. Ce que dit l'Agence de santé publique, c'est que quand la ventilation est inadéquate et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, bien, les purificateurs peuvent être dirigés d'un groupe d'experts puis, qui était avec le ministre Roberge et qu'il disait que non seulement c'est inutile, mais ça peut même être nuisible.
Ouais.
Et puis, il faut se souvenir ici que la scientifique en chef du gouvernement canadien, Mona Nemer, a donné la comparaison avec les couteaux de cuisine. Effectivement, les couteaux de cuisine, dans notre cuisine, si on les utilise mal, on va se couper les doigts plutôt que de couper les légumes. Alors, je ne sais pas parce que les purificateurs, s'ils sont mal utilisés, oui, c'est vrai, ils peuvent être dangereux, mais il suffit de bien les utiliser. Et à ce moment-là, ça devient, comme le dit l'Agence de santé publique du Canada, une mesure complémentaire.
Alors, comment réagit Dr. Arruda, André Noël, à cette opinion de Mona Nemer, qui est du bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada? Comment il a réagi?
Bien, c'était il y a quelques mois. Et puis, c'est que Mme Nemer, effectivement, avait critiqué un peu le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Puis, il avait réagi en disant qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de cette dame-là. Ce qui était un petit peu méprisant, n'est-ce pas? Et, effectivement, c'est pas la seule fois qu'il y a des litiges entre le Québec et Ottawa.
Ouais. Cet article-là, c'est vraiment intéressant dans Ricochet Média. André, vous écrivez le vendredi 8 janvier. Là, vous parlez du 2021, là, pas 2020. Quand l'Institut national de santé publique publie un rapport affirmant « À l'heure actuelle, aucune preuve directe ne démontre clairement le mode de transmission par voie aérienne avec la COVID-19 ». Et moi, je me suis chicané avec le ministre de l'Éducation, M. Roberge, le 17 décembre dernier, et il m'affirmait que c'était pas une des causes principales de la transmission par les aérosols. Là, vous faites la liste d'opinions différentes, là.
Oui, il y a un grand problème, c'est que la question de l'utilisation des mots, vous qui êtes journaliste et moi aussi, on sait à quel point c'est important dans une période de crise que les mots aient leur sens commun, c'est-à-dire un sens que tout le monde peut comprendre. Et malheureusement, puis il faut dire que c'est pas seulement ici des autorités québécoises qui sont coupables, c'est carrément la communauté médicale mondiale, je dirais, qui est attachée à son jargon. Alors, dans le jargon médical, transmission aérienne du virus, ça veut dire transmission lointaine, et non pas transmission à proximité.
OK.
Et c'est un problème, parce qu'on n'utilise pas les mots qu'ils ont dans le sens du dictionnaire. Même pour l'Institut national de santé publique, ça a pris du temps. Finalement, ils reconnaissent le rôle des aérosols. Concrètement, comment le coronavirus se transmet? Il se transmet par aérosol de façon massive, que ce soit à proximité ou que ce soit loin. Mais c'est vrai que la contagion est beaucoup plus forte à proximité de la personne infectée. Si vous êtes, par exemple, effectivement à 2 mètres et moins d'une personne qui est infectée, la possibilité d'être infectée est beaucoup plus élevée que si vous vous situez à 6 mètres. Mais même à l'intérieur de 2 mètres, c'est par aérosol et c'est par transmission aérienne. Bon, alors ici, il y a ce problème de l'Institut national de santé publique qui joue sur les mots, qui disent qu'il n'y a pas de preuves directes, mais que les autres preuves, si on peut dire, sont absolument massives. Et pour les, je les contredis ici dans mon article en indiquant ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui pourtant elle-même est lente à réagir à l'évolution des connaissances. Et là, je cite, c'est le titre de leur article en 2019, « Mettre sur pied le risque d'une transmission aérienne du virus ». Alors, c'est absolument invraisemblable que l'Institut national de santé publique n'écrive pas carrément que, oui, effectivement, le virus se transmet par transmission aérienne dans l'air et non pas par contact direct, comme par exemple ou par l'eau ou n'importe quoi d'autre.
Ouais. Et vous ajoutez à ça, en termes d'exemple, André Noël, la référence des 363 experts du Québec et du Canada qui ont indiqué que le purificateur d'air doit faire partie de l'arsenal. Vous l'avez dit, c'est pas la panacée, mais faire partie de l'arsenal de la lutte contre la COVID-19. Encore une fois, comment vous expliquez l'entêtement du docteur Arruda et de son équipe?
J'ai carrément l'impression qu'ils s'en chargent et qu'ils ne suivent pas l'évolution des connaissances. Je veux dire, c'est des preuves ici de la transmission aérienne, donc sont irréfutables. Les purificateurs d'air, non seulement l'Agence de santé publique, mais aussi les CDC, les Centers for Disease Control, aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency, l'Agence de protection de l'environnement, reconnaissent leur rôle dans la capacité de filtrer effectivement les aérosols infectieux. Ils disent que ça peut filtrer jusqu'à 99% des aérosols infectieux. Alors, je veux dire, oui, effectivement, si on les installe mal, je veux dire, c'est un problème, mais il faut bien les installer. D'ailleurs, il n'y a pas seulement d'ailleurs le CDC et les PA, il y a aussi effectivement le bureau de la scientifique Madame Ménère qui a dit que les purificateurs sont utiles. Maintenant, l'agence, c'est quelque chose qui est reconnu, en Allemagne aussi. Et au Québec, ce qui est malheureux, c'est que les commissions scolaires anglophones, notamment à Montréal, ont acheté des centaines de purificateurs. Mmh. Et là, on voit qu'ici, il y a une espèce de manque de démocratie parce que les commissions scolaires anglophones ont réussi à continuer d'exister. Et donc, ont ce pouvoir-là. Et au niveau francophone, les commissions scolaires n'existent plus. Alors, c'est la décision centrale du gouvernement qui prévaut aussi.
Ouais, et les écoles privées aussi qui ont décidé de se munir de purificateurs d'air. Achetez-vous, André, l'argument du docteur Massé qui dit que c'est un faux sentiment de sécurité?
Ben, non, pas du tout. Parce que, je veux dire, c'est prouvé que, effectivement, puis là, je me fie, quand on est journaliste, on va chercher des sources crédibles. Ouais. C'est ça qui est important. À mon avis, quand il y a autant d'organismes comme l'Agence de santé publique du Canada, le Bureau de scientifique en chef, les CDC, les PIA, l'Allemagne, etc., qui disent que c'est utile, bon, ben, je veux dire, j'ai conclu que c'est utile. Et c'est intéressant de voir ici que c'est le même argument que le Dr Massé a utilisé, que l'argument qui avait été utilisé par le Dr Arruda au début de la pandémie en disant que les masques, le port du masque, non seulement était utile, mais pouvait être dangereux. C'était rapidement contredit, notamment dans les articles que j'avais fait dans Ricochet au début de la pandémie. Les masques, ce ne sont pas... Évidemment, ils peuvent être dangereux si on les utilise, si on les porte mal. C'est la même chose, c'est comme n'importe quoi. Mais, je veux dire, bien porté, les masques sont extrêmement utiles et ce n'est plus remis en question.
Est-ce que la santé...
Par rapport aux purificateurs, il y a non seulement les purificateurs qui pourraient être utilisés, il y a des échangeurs d'air. C'est prouvé dans les maisons que les échangeurs d'air sont utiles, assurent une qualité de l'air supérieure que quand il n'y a pas d'échangeur. La même chose pourrait être faite dans les écoles, installer des échangeurs d'air.
Est-ce que la santé publique du Québec présume que les Québécois sont toujours des cabochons, qu'on peut pas installer des purificateurs d'air comme du monde, que ça prend un réparateur Maytag pour venir faire la job, qu'on n'est pas capable de se mettre un masque d'en face sans se fouiller dans les yeux? On dirait que c'est toujours la prémisse à toute intervention, à toute prévention. Ben non, les Québécois sont trop tata pour l'utiliser comme du monde.
En tout cas, c'est clair que, bon, premièrement, je pense qu'il y a carrément un problème dans l'évolution des connaissances. Comment ça se fait, puis ça, c'est pas le seul cas, comment ça se fait que ces personnes, qui sont quand même grassement payées, le docteur a plus de 300 000 $ par année, ont été complètement en dehors des connaissances scientifiques, pas juste sur la question des masques et maintenant la direction de la santé publique, docteur Massé, sur la question du purificateur d'air, mais même au début, ils ne reconnaissaient même pas, ils ne savaient même pas que les personnes asymptomatiques vont être contagieuses. Je veux dire, c'était absolument hallucinant. Je veux dire, deux mois après que ça a été bel et bien indiqué, le docteur Arruda l'a dit, à tout le monde en parle, on ne savait pas au début de la pandémie que les personnes asymptomatiques vont être contagieuses. Mmh. Ils ont flirté avec la stratégie d'immunité de groupe, d'immunité communautaire, en disant que peut-être que ce serait une bonne idée que les gens se contaminent jusqu'à ce que l'administratrice en chef de l'Agence de santé publique du Canada, Mme Theresa Tam, dit non, ce n'est pas certainement pas une bonne idée. Ouais. Puis effectivement, maintenant, il n'y a plus personne qui dit ça, sauf des étudiants.
Avant qu'on se quitte, André Noël, il y a eu une rencontre, une espèce de commission parlementaire, là, une rencontre parlementaire avec le docteur Arruda et le docteur Massé. Trouvez-vous que ça a été une occasion ratée pour avoir des réponses à des questions très simples?
Ben oui, je pense qu'effectivement, le docteur Arruda ne donne pas de réponse très claire. Ça a patiné. Et puis, il y a un problème de pédagogie, carrément. Si on regarde, par exemple, en Allemagne, c'est équivalent d'Arruda, comme le responsable de la santé publique, ou encore aux États-Unis, Anthony Fauci, ils font l'éducation de la population dans des termes très clairs. Et ici, malheureusement, ce rôle de pédagogue que la direction scientifique devrait avoir, eh bien, ils sont en dessous de tout.
Ouais.
Et ça aurait pu être l'occasion pour le docteur Arruda, effectivement, de faire une bonne pédagogie. C'est absolument essentiel. Mais ça n'est pas fait. Et on arrive aussi à des recommandations absurdes, comme par exemple de ne pas marcher à deux dans un parc ou de carrément limiter la fréquentation des parcs.
Ouais.
Alors qu'on sait très bien que dehors, le risque de contagion n'est pas nul, mais est infiniment moins important qu'à l'intérieur. Puis, on ne peut quand même pas obliger les gens à rester enfermés chez eux tout seuls. Ça ne marche pas. Il faut pouvoir expliquer une certaine gradation des risques. Dans un milieu fermé, où est-ce qu'il y a 15, 20, 30 personnes comme dans les écoles, le risque est élevé. Dehors, si vous vous croisez déjà rapidement, si vous allez patiner, si vous allez faire du ski de fond, si vous allez marcher sur la montagne, le risque est infime. Il n'y a pas nul, mais il est infime. C'est important que les gens soient bien conscients de cette gradation des risques.
Ouais.
C'est pas normal que la direction de la santé publique ne fasse pas ce travail de pédagogie.
Est-ce que le manque de clarté amène justement tous les conspirationnistes, tous ceux qui vivent dans la désinformation et qui accusent le gouvernement de toutes sortes de complots, mais que puisqu'il y a un manque de clarté scientifique, ben on se fie à n'importe quelle sottise?
Bien, effectivement. Donc, il faut faire carrément l'éducation scientifique des gens. Il faut que la science devienne quelque chose qui appartienne à tout le monde et qu'on réponde rationnellement aux arguments des conspirationnistes. Sur la question des masques, c'est sûr que ça n'a pas aidé au début que le docteur Arruda dise que les masques étaient dangereux. Et ensuite, d'ailleurs, cette vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu d'excuse, il n'y a jamais eu d'explication de dire « écoutez, on s'est trompé ». Alors, je dirais, il faut à un moment donné avoir l'humilité de dire, bon, ben, on s'est trompé, voici pourquoi, et voici pourquoi le masque est utile. François Legault, donc, évidemment influencé par la santé publique, avait été dire à un moment donné que les masques n'étaient pas utiles pour le porteur. C'est faux.
Ouais.
Le masque, il protège non seulement le porteur contre, non seulement nous empêche de diffuser le coronavirus, mais il nous protège aussi contre les virus qui sont émis par les autres personnes. Ça aussi doit être dit et quand des corrections devraient être faites, elles devraient être faites.
C'est à lire dans Ricochet Média, André Noël, sur les purificateurs d'air, aussi sur les décisions de la santé publique au Québec. André, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
À la prochaine.